RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story, radio et télé pour les grandes gueules en direct, bien évidemment, avec Flora Gebali, avec Laura Barton-Martinez et avec Charles Consigny. C'est la dernière heure des GG. Tout à l'heure, à midi moins 20, on va s'intéresser à cette nouvelle étude, vous savez, sur les produits chinois qui sont vendus sur Chine, sur Temu, sur AliExpress. 46% des produits testés sont dangereux. 75% des jouets, des vêtements non conformes sur 650 références. Alors, est-ce que vous allez arrêter d'acheter? Quand même, ça fait plusieurs enquêtes qui sortent. Celle-là est assez problématique. Il y a même des sèche-cheveux qui présentent des risques d'incendie si on les laisse brancher. Est-ce que vous allez arrêter d'acheter ces produits à bas coût? 32-16 pour le dire tout à l'heure au GG. On va s'intéresser aussi au Rassemblement National. C'est le président de la Fédération bancaire qui le dit aujourd'hui. Il y a un problème, c'est que les banques ne prêtent pas d'argent au Rassemblement National pour sa campagne électorale. Là, c'est pas le RN, c'est le président de la Fédération bancaire. Alors pourquoi est-ce que les banques ne prêtent pas au RN? Est-ce qu'il faudrait obliger les banques françaises à prêter aux partis politiques au RN? On en parlera tout à l'heure à 11h20 avec vous au 32-16. D'abord, on va revenir sur une petite sortie de Charles Consigny qui fait pas mal causer au 32-16. Parce qu'on évoquait avec Jérôme Guedj le 1er mai, le grand flou artistique autour du 1er mai, et Charles, en libéral assumé, dit bah, il faut que tout le monde puisse ouvrir le 1er mai, qu'on laisse au moins cette liberté, et même la liberté de travailler d'une manière générale. On réécoute et vous réagissez au 32-16.
Il faut ouvrir les magasins toute la nuit.
Oui, 7 jours sur 7.
Regarde, il est dingue.
24 heures sur 24. Comme dans tous les grands pays qui tournent et qui sont en train de nous bouffer.
Liberté !
Alors, c'est vrai que c'est le grand flou artistique sur le 1er mai, mais toi, tu vas beaucoup plus loin. Tu veux qu'on puisse avoir cette liberté de travailler au-delà du 1er mai, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Explique-toi, Charles.
Mais absolument.
Et vous réagissez au 32-7.
Je suis pour, si vous voulez, c'est ce que j'essayais d'expliquer à Jérôme Guedj. Je suis favorable à ce type de révolution pour deux raisons. La première, c'est que l'activité crée l'activité, et ça, je le crois profondément. Plus vous permettez aux gens de travailler, de commercer, de rendre des services, etc., plus vous alimentez l'économie de votre pays et vous enrichissez tout le monde et vous payez vos retraites et vous payez votre hôpital, votre école, votre armée, etc., premièrement. Et deuxièmement, pour une raison plus bête, plus simple, qui est la liberté. Moi, je suis pour, effectivement, une certaine liberté et je ne vois pas au nom de quoi on régenterait, je veux dire, il n'y a plus vraiment de chômage dans notre pays, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut travailler le dimanche, il le fait. Je sais que la gauche hurlera, mais je pense qu'il le fait sur la base du volontariat. Et je constate par ailleurs qu'on est mieux payé quand on travaille les dimanches, les jours fériés ou qu'on fait du travail de nuit. Il y a beaucoup de choses qui se sont digitalisées, il y a beaucoup de commerces qui peuvent ouvrir sans même qu'il y ait quelqu'un dedans. Il y a des salles de sport, par exemple, qui sont en train de faire ça. Donc, voilà, décoinçons-nous là-dessus et je constate enfin que il y a des pays très performants dans le monde. J'ai cité Corée du Sud, Chine, Émirats Arabes Unis, aux États-Unis dans beaucoup d'endroits aussi. Dans les grandes villes, ça concerne pas forcément partout, mais dans les grandes villes, vous avez des magasins ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ça fonctionne très bien. Donc je veux dire, arrêtons en France de diaboliser le travail. Je trouve que parfois en France, c'est même plus difficile de trouver l'horaire d'ouverture d'un commerce.
Oh.
Bah, excuse-moi, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, va en province, tu verras. C'est plus difficile de trouver, de viser le moment où le commerce est ouvert que de se taper le nez parce qu'on n'est pas arrivé à la bonne heure, parce que ça ferme pendant des plombes le matin, le soir, au déjeuner, le week-end, le jour férié, etc. Donc oui, je suis pour la liberté totale en matière de commerce et de travail. Oui.
D'accord avec ça ou pas alors, Flora et puis ensuite Laura. Flora.
Moi, je suis d'accord avec Jérôme Gage qui disait que le débat du 1er mai, c'est un faux débat. Si la loi, elle est imparfaite, il faut la corriger parce que effectivement, c'est injuste pour une boulangerie que le McDo soit ouvert, que la boulangerie soit fermée. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde sera d'accord pour dire que si la loi est imparfaite, il faut la corriger. D'ailleurs, Gabriel Attal s'est pas beaucoup mouillé sur cette idée parce que en fait, il nous a proposé une grande idée politique et en fait, c'était juste corriger une anomalie législative. Après, sur le grand débat sur la question du travail, non, je ne suis pas d'accord. La France n'est pas la Chine, la France n'est pas la Corée, la France n'est pas un pays où on travaille, on en a déjà parlé ici, mais la règle en Chine, c'est de travailler 6 jours sur 7, de 9h à 21h. Et heureusement, c'est pas le modèle français et ça ne le sera jamais.
C'est pas ça que je propose,
et moi, je pense, contrairement, j'ai souvent entendu Édouard Philippe sur des plateaux télé dire il faut qu'on soit capable d'être compétitif avec la Chine. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme si on compare deux pays qui n'ont pas la même histoire, pas la même taille. La Chine, c'est 1,3 milliards de personnes. Nous, on est 70 millions de Gaulois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on rivalise? C'est pas le sujet. On n'est pas au même endroit. Donc, au lieu de se comparer avec l'incomparable, on doit réinventer le modèle français. Et qu'est-ce que c'est le modèle français du travail? À l'ère d'une mondialisation complètement débridée et malheureuse, à l'ère de l'intelligence artificielle qui va détruire les emplois chaque année davantage, et à l'ère de la question d'un libéralisme complètement débridé qui, soi-disant, est moderne à écouter Charles Consigny, mais qui date de Reagan et Thatcher et qui est la même recette renouvelée à l'infini.
Deux grands chefs d'État qui ont donné des années de prospérité à leur pays.
Ce que je propose, c'est que l'Union européenne crée un nouveau modèle souverainiste européen où on produit des produits qui sont sains et des produits qu'on va pouvoir exporter dans le monde entier, puisque les constats que font l'Europe aujourd'hui sont les constats que sont en train de commencer à faire l'Inde, la Chine, le Brésil et tous ces pays émergents.
Mais sur le travail, on ne change rien.
Laura, d'accord avec ça, 7 sur 7 ? Liberté d'ouvrir, de fermer quand on
moi,
veut.
Moi, 7 sur 7, oui.
24 sur 24.
Moi, j'ai toujours été pour le travail dominical. Moi, quand j'avais pas d'enfant, j'ai bossé les dimanches pour être payé double. Ça m'a payé ma voiture. Donc, ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis pas pour le travail de nuit. Vraiment, c'est-à-dire vraiment les zones de nuit, parce que déjà ça va créer encore des maladies, etc. Parce que c'est très mauvais. On le voit, hein, les gens qui ont eu des métiers de nuit sont déglingués. Sont déglingués. Mais par contre, je suis peut-être oui pour augmenter. Alors déjà, moi je suis pas ni pour ni contre les 35 heures. J'estime que le salarié doit choisir combien de temps il veut bosser. On fait ce qu'on veut.
Si on lui laisse le choix, c'est un peu plus compliqué.
Ben oui, mais enfin, pourquoi on est obligé de se cantonner à 35 heures qu'ensuite on est.
S'il veut bosser plus.
Non, mais c'est bien sûr.
Oui. Parce que c'était pas.
S'il veut bosser 45 heures pour se faire max de pognon, il le fasse. On lui laisse le droit de faire du mi-temps, du tiers-temps. Pourquoi on lui autorise pas le droit de travailler plus d'heures par semaine s'il en a envie, s'il a pas d'enfant?
Ça existe quand même, les heures supplémentaires.
Oui, mais t'es cantonné. Je crois qu'au bout de 42, ça y est, c'est.
Ouais, ils sont plafonnés, ouais.
Voilà, t'as pas le droit d'aller, au-delà, t'as pas le droit de cumuler des emplois, etc. Et autre chose, peut-être qu'il faudrait se dire, si admettons les commerces, au lieu de terminer à 19h, les commerces terminaient à 21h ou à 22h. La vie, elle est encore très, très présente. Alors, peut-être pas en ruralité, mais dans les grandes villes, la vie est encore présente. Bah, peut-être qu'au lieu de consommer sur ton téléphone et de commander un truc chez Amazon, si, je te dis une bêtise, ton Sephora, ton machin, ton truc, il est ouvert, pourquoi pas? Et encore une fois.
Et donc, les vendeuses chez Sephora, elles voient encore moins leurs enfants parce qu'elles terminent pas à 18h mais à 21h.
Ben si, parce que t'auras la vendeuse qui est étudiante, par exemple, plutôt que
oui,
de.
Oui, mais en fait, ça, c'est toujours le même problème. Quand on fait confiance à la loi du marché, on paupérise les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on appauvrit. Tu fais confiance à la loi du marché.
Non, mais moi, j'étais quoi quand j'étais plus
les jeunes,
jeune.
Oui, mais tu dis les jeunes. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont le choix, et tant mieux pour eux. Moi, par exemple, je fais partie des personnes qui a toujours voulu cumuler les jobs, etc., mais parce que j'avais le choix. Et qui est capable de s'arrêter quand t'as des enfants, visiblement, c'est ce que t'as l'air de dire. Et il y a les gens qui ont pas le choix. Et ces gens-là, ils ont besoin de l'État. L'État, ça sert pas aux riches. L'État, ça sert aux pauvres. Et donc l'État et les lois, sert à aider, ça sert à éviter que les plus pauvres deviennent encore plus pauvres. C'est ça le sujet.
Je vois pas en quoi. Je vois pas en quoi je dénigre, parce que là où par contre, pour moi, c'est une évidence. La personne qui finit à 22h, son salaire sera majoré par rapport à la personne qui.
Et donc la personne qui arrive pas à finir les fins de mois, elle va travailler jusqu'à 22h. Elle va plus voir ses enfants et elle va être toujours aussi pauvre.
Et tu trouves que c'est mieux qu'elle soit.
Vous êtes adorable quand vous nous expliquez que le néolibéralisme, ça arrive de la dernière pluie. Or, c'est un modèle qui date des années 80, qui a été théorisé par Thatcher et Reagan
et qui a fait des États-Unis le pays le plus puissant du monde.
Et qui a fait les plus grandes inégalités de l'histoire. Donc en fait, et qui fait qu'aujourd'hui, depuis 30 ans,
au final, ce qui se passe, mais regarde, attends, Flora, je vais te dire un truc très simple. Ce qui s'est passé, c'est que au final, moi, j'étais apprenti.
Les Américains, ils se marrent pas. Il y a les Américains qui gagnent 200 000 dollars par an à 23 ans en sortant de leur étude. Et il y a les Américains qui enchaînent les boulots, qui enchaînent les jobs, qui ont été obligés de vendre leur maison à cause de Donald Trump, qui croulent sous les assurances et qui, quand ils ont un cancer, ne peuvent pas se soigner. Et ça, la suppression de la Obamacare par Donald Trump, c'est, je crois, 60 000 Américains morts par an en plus. Parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner.
Si tu regardais
et les Américains qui crèvent la dalle, ils regardent nos cartes vitales avec envie.
D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a plein d'Américains.
On va au 32-16.
On fait face à une vague migratoire d'Américains. Vous avez vu, il y a des cargos entiers d'Américains qui se présentent sur les plages normandes pour immigrer en France pour souscrire à la carte vitale. Donc c'est que quand même ils sont plus ou moins contents
de revenir au sujet. Regarde ce qui s'est passé, Flora. Moi, je bossais la journée, je payais mes trucs, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, je n'avais plus le droit de travailler. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bossé, mais j'ai bossé comment? Au black. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils veulent gagner plus d'argent. Les gens, ils veulent s'en sortir. Et moi, si j'ai pu ensuite m'arrêter de travailler, c'est parce que, avec mon mari, on a cumulé des boulots, que moi, j'ai bossé au black pour me payer ma bagnole, faire ceci, faire cela. Et qu'ensuite, j'ai mis des sous de côté, j'ai pu m'acheter ma maison, etc. Et pourtant, je viens des quartiers défavorisés, je viens des quartiers populaires, où on avait des aides, où on avait ceci, où on avait cela, et que mes parents, ils ont toujours été ouvriers, et qu'à l'heure actuelle, ils sont toujours pas propriétaires. Donc on est parti de tout en bas, et c'est juste que je pense que tu peux t'élever socialement par le travail. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'élever socialement par des aides sociales.
Eh ben, on peut pas s'élever socialement par le travail aujourd'hui. Et c'est théorisé par un essayiste qui s'appelle Antoine Fouché.
J'ai 30 ans, j'en ai pas 70.
Oui, mais il y a Antoine Fouché qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Sortir du travail qui ne paye plus. La droite comme la gauche est d'accord avec ce constat. Mmh. Et aujourd'hui, le travail, l'émancipation par le travail, c'est un mythe. Mais moi aussi, j'adorerais y croire, Laura. Mais c'est pas vrai. Et c'est théorisé, c'est prouvé par Antoine Fouché. Donc, en fait,
qu'est-ce qui fait que le travail ne paye plus?
C'est comme si tu dis que tu as entraîné pour devenir footballeur et tu deviendras Kylian Mbappé. Ce n'est pas vrai.
Mais le travail ne paye plus.
C'est comme si tu dis que tu as joué au loto.
Le travail ne paye plus.
Il y a que les joueurs qui ont gagné.
C'est quoi la phrase du loto? Le travail ne joue plus.
100% des joueurs ont tenté leur chance.
Le travail ne paye plus.
100% des riches.
Exactement.
100% des riches ont voulu être riches.
Le travail ne paye plus parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand tu bosses, de toute façon, l'État te prend le fruit de ton travail. Ça, c'est ce qui fait effectivement que le travail ne paye plus.
Patrick est avec nous. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour les GG.
Artisan boulanger du côté du Loir-et-Cher, Patrick. Qu'est-ce que vous en pensez de la petite sortie de Charles tout à l'heure? On doit pouvoir travailler 7 sur 7 quand on veut 24-24, dites-moi.
Ah oui, bravo Charles de défendre le travail, je ne sais pas dans la France qu'on vit, mais bon, nous, vous voyez, on est artisan boulanger, je suis une toute petite entreprise avec mon épouse. Elle est conjoint salarié et si mon épouse c'est la patronne, eh bien elle n'a pas le droit de travailler. C'est ça la France actuellement.
Expliquez pourquoi, Patrick.
Femme de gérant.
Bien résumé.
Ouais. Et oui.
En plus.
Mais pourquoi, Patrick, alors?
Parce qu'elle est conjoint salarié. Elle est dans le cadre d'un salarié. Donc même que c'est la patronne, elle est investie dans l'entreprise et tout. Hein.
Donc au 1er mai, pas le droit de faire travailler un salarié.
Elle a pas le droit de travailler. Par contre, si madame doit se mettre au chômage parce que la société ferme, par exemple, dans le pire des cas, ce que je ne souhaite absolument pas à Patrick, mais madame n'a pas le droit au chômage parce qu'elle est femme de salarié, elle est femme de gérant. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Posez, messieurs, dames.
En boulangerie pâtisserie, on n'est pas beaucoup syndiqués, donc les syndicats, ils nous embêtent pour pas être grossiers depuis des années et des années. Et puis là, j'entends dire ce matin que on va faire des travaux, il y a 500 personnes à la SNCF qui vont travailler les 3 jours du 1er mai. Là.
Oui, sur la gare de Lyon, pour travailler,
voilà,
bien sûr.
Tout à fait.
Oui. Et donc, du coup, la gare de Lyon sera fermée.
Voilà, pourquoi ils n'ont pas fait ça le week-end du 8 mai?
Parce qu'on fait ça sur un week-end où on a moins de trafic qu'en semaine du côté de la gare de Lyon. Donc.
Le week-end du 8 mai, il y a bien 3 jours comme le week-end du 1er mai.
Oui, donc, mais il y a un peu moins de trafic par rapport à la semaine. Patrick, on a Antoine qui veut réagir justement. Antoine du côté de la Gironde. Bonjour Antoine.
Bonjour les GG.
Attention, mettez-vous bien près du téléphone, Antoine.
Oui, désolé, je suis en haut de ma grue là, donc c'est un peu compliqué.
À combien vous êtes, Antoine, de hauteur là?
Là, je suis à 35 mètres.
Oh, 35 mètres, vous écoutez les grandes gueules. D'accord avec le coup de gueule de Charles ou pas?
D'accord à moitié. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord pour que tout le monde puisse bosser quand il veut. J'appelle ça la flexibilité. Vous voyez, moi, je fais 60 heures semaine, j'ai un peu menti. J'ai un premier job où je fais 39 heures. Et le deuxième, je travaille le soir où je filme des palettes. Hein. Il n'y a pas besoin de diplôme. Mais
donc, au black ou déclaré?
Non, non, mais je suis dans une entreprise normale, en intérim. Sauf que j'ai menti à l'intérim. J'ai pas dit que j'étais à 39 heures. J'ai dit que j'étais à mi-temps. Parce que sinon, je devais passer le quota d'heures, vous voyez. Donc, en France, c'est vrai qu'on a tendance à trop régler. Mais moi, j'ai besoin d'argent pour nourrir mes enfants.
On vous empêche de travailler en France.
C'est je suis célibataire, dingue, hein. J'ai deux enfants à la maison. Ils ont des envies incroyables. Donc, il me faut de l'argent. Mais j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont compris que j'en aurais jamais assez pour eux. Et donc, à 16 ans, ils ont commencé à travailler. Et le seul employeur en France qui embauche les mineurs, c'est McDo.
Donc, ils bossent au McDo.
Voilà, et le samedi, mon fils qui a 16 ans travaille, qui est en bac pro, donc il travaille le samedi. Mais ma fille, maintenant, elle fait un 25 heures, donc elle arrive à elle va avoir 18 ans bientôt. Mais ce qui m'embête pour elle, et peut-être que je suis un peu vieille France, c'est que le dimanche, elle n'est pas payée plus cher qu'un lundi.
Ah, ça, c'est pas normal.
Voilà.
Ça,
c'est pas normal. Alors bon, c'est la restauration, on la connaît, la convention collective de la restauration, c'est comme ceux des routiers, elle est hyper dure. Ça, faut le dire.
Ouais, c'est
voilà. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils s'en foutent des jours fériés et tout ça. Ils vont travailler, que ce soit le dimanche ou le lundi, c'est pour eux, c'est pareil.
Voilà, non, on est quand même le seul pays au monde où on empêche
changer,
les gens de travailler.
On peut changer,
c'est
payer double dimanche.
Ouais, mais du coup, Antoine, normalement, c'est dans la loi de payer double.
Non, pas en restauration. En CHR, les hôpitaux, etc.
Ce qui est vrai, c'est que typiquement, McDonald's aurait les moyens de mieux payer ses salariés le dimanche.
Mais Antoine, je veux dire,
j'ai récupéré dimanche en hôtellerie.
Mais du coup, Antoine, aujourd'hui, avec ces deux boulots, attention à votre téléphone. À votre téléphone. Antoine, du coup, avec ces deux boulots vous cumulez, ça vous fait combien par mois? Vous arrivez à combien par mois?
Alors, moi, j'arrive à peu près à 3 200-3 300 euros.
Voilà.
Mais attention, moi, je ne me plains pas. Par contre, j'ai deux enfants à la maison. Je suis tout seul, hein. Je suis super célibataire. Donc, là, je paye les permis. Je me suis dit que je leur devais, pour partir dans la ville, parce que j'habite à la campagne, une voiture. Donc, j'ai essayé de travailler au maximum pour eux. Mais comme ils ne sont pas feignants, alors ça me motive. Vous voyez, ils seraient
là. Vous leur avez donné l'exemple? Vous leur avez donné l'exemple, Antoine. Bah, félicitations.
Voilà.
Antoine, merci de votre témoignage.
Bonne
journée. Là, vous bossez sur un gros chantier, là, Antoine.
Ouais, je suis en train de couler du béton là, et franchement, c'est pas très écolo, mais c'est pas grave. On s'en fout. Il faut bien travailler. Hein.
Merci d'avoir été avec nous, Antoine. Merci d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Dans un instant, le Rassemblement National qui ne trouve pas de banque française pour financer sa campagne. Qui le dit? C'est le président de la Fédération bancaire française. Et il dit c'est problématique. Pourquoi est-ce que les banques ne prêtent pas au Rassemblement National? Est-ce qu'il faudrait obliger les banques à prêter au RN? 32-16 pour venir en discuter avec les GG. Il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Vous avez raté l'émission, vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est l'émission dans son intégralité, bien sûr. Et puis les petites anecdotes qui sont racontées pendant la pub. Et là, ce sont les GG qui racontaient leur job. Est-ce qu'ils travaillaient 7 jours sur 7? Est-ce qu'il ça c'est déjà arrivé? Quels ont été les premiers jobs qui les ont lancés dans la vie active? Flora Yebali, Charles Consigny, Laura Barton-Martinez. On a encore deux sujets de discussion à voir avec vous au 32-16. Tout à l'heure à midi moins 20, Chine, Temu, AliExpress, les enquêtes qui se multiplient pour démontrer que les produits sont dangereux et appeler les clients à la vigilance. Est-ce que du coup, ça vous dissuader de continuer d'acheter sur ces plateformes qui vendent les produits chinois à bas coût? C'est au 32-16 qu'on viendra en parler à midi moins 20. D'abord, on va évoquer le cas de nouveau du Rassemblement National qui n'arrive pas à trouver une banque pour le financer.
Pour l'instant, les banques françaises refusent d'accorder un prêt qui n'a honnêtement qu'un risque minime. Enfin, je veux dire, pour être remboursé des frais de campagne, il faut non seulement faire plus de 5%. Je pense qu'il y a peu de risques, même si en démocratie, il faut jamais dire jamais, ou que les comptes de campagne soient rejetés. Nous avons toujours été irréprochables s'agissant de nos comptes de campagne. Les comptes de campagne de la présidentielle ont toujours été validés. Nous avons toujours fait acte et gage de notre probité. Donc, cette situation, elle est incompréhensible. Et elle est incompréhensible pour la démocratie française.
Donnez-moi de la tendresse. richesse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses, car maintenant.
Ah ben là, c'est donnez-moi de l'argent. Alors, est-ce que c'est un problème pour la vie démocratique? Effectivement, aucune banque ne veut prêter au Rassemblement national. Le Rassemblement national le dit et c'est confirmé par le président de la Fédération bancaire française. Et il dit c'est problématique. Le RN est à la recherche d'une banque qui devrait lui avancer 10 millions, 11 millions d'euros, 10,7 millions précisément, qui correspond au montant maximal remboursé par l'État pour la campagne de l'élection présidentielle. Alors, aucune banque ne prête au RN, est-ce que c'est choquant? Est-ce que c'est un problème démocratique, Flora?
Je crois que c'est un problème démocratique, oui, et que l'argent en politique est un gros problème. Parce que aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent ou de parti politique fort derrière vous, vous n'existez pas en politique. Et donc, ça permet à quelqu'un comme Emmanuel Macron de court-circuiter toutes les échéances électorales, enfin tous les échelons de la vie politique grâce à son réseau, qui fait qu'il a levé énormément d'argent et qu'il a obtenu un prêt. Mais on peut pas aujourd'hui, que si on est l'ami des financiers, être capable d'avoir de l'argent. Ça marche pas comme ça. Ou alors, si on est un millionnaire, on peut faire une campagne, mais si on n'a pas d'argent, on peut pas faire de campagne. Personnellement, j'ai lancé il y a longtemps une liste citoyenne au municipal et on a dû abandonner parce qu'on n'était pas sûr de faire 5% et donc d'être remboursé et on risquait 300 000 euros de dette. Personne n'était engagé au point, personne n'avait les reins assez solides pour prendre 300 000 euros de dette et donc on a rétropédalé 3 mois avant à cause de ça. Donc je pense que oui, c'est un problème.
Mais pourquoi les banques ne prêtent pas au RN?
Parce qu'elles ont pas envie, c'est une mauvaise image, parce que ça leur rapporte rien.
Ah, c'est ça, c'est une question d'image.
Et c'est une question d'image, oui. Mais le sujet, c'est surtout, il faut qu'il y ait un financement. Je vous donne un autre exemple. Sarah Knafo, qui a débarqué 2 mois avant l'élection municipale à Paris, comme elle a un parti qui est populaire auprès des financiers, visiblement, elle avait plein d'argent pour faire sa campagne. Et c'est comme ça qu'elle avait des jolies robes jaunes, des jolies fleurs jaunes et des vidéos jaunes sur les réseaux sociaux où elle avait un grand sourire et un super maquillage, parce que tout ça coûte de l'argent en fait. Elle n'est pas inventée, on a encore inventé du sexisme dans mon propos, loin de là. Je dis juste que pour bien présenter et faire des jolies vidéos, il faut de l'argent. Tout ça coûte de l'argent pas tout le monde a cet argent-là. Et donc elle a fait une campagne qui l'a emmenée à un score bien au-delà de ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas réussi à lever dans le privé. Pour moi, c'est pas normal qu'on puisse, si on a un bon réseau de financiers, on peut faire de la politique. Si on n'a pas un bon réseau de financiers, on ne peut pas faire de politique.
Laura ?
Ouais, non. Moi, je trouve ça déjà honteux, c'est scandaleux. Je veux dire, il représente quasiment un tiers des électeurs français. Il y a zéro risque, c'est même pas un risque minime, c'est il y a zéro risque que ne soit pas remboursé. Je veux dire, si demain le RN faisait moins de 5%, c'est que les élections sont truquées. Donc les banques n'ont aucune excuse. Et ça va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de se tourner vers un pays étrangers. Et rappelez-vous, aux dernières élections, on les avait quand même dit, vous êtes les amis de la Russie, vous êtes les amis de Vladimir Poutine, mais en fait, il s'était passé exactement la même chose. Aucune banque française n'avait voulu les financer et ils avaient été obligés d'aller chercher l'argent ailleurs. Pardon, mais je suis désolé, c'est le premier parti de France, les banques devraient être dans l'obligation de leur financer leur campagne.
Bah, tu voudrais les obliger, toi?
Je veux dire, mais de la même manière, pour elle, si c'est LFI qui avait des problèmes, j'obligerais.
Uniquement parce que c'est le RN.
Mais non, mais que ce soit les Républicains, LFI, le Parti Socialiste, le Front National, etc.
Une proposition qui avait été faite, je crois que c'était François Bayrou qui voulait créer la banque de la démocratie, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'en fait, elle soit abondée et qu'au moment des élections, des échéances électorales, elle puisse prêter. Pourquoi les banques ne prêtent pas au RN, Charles?
Le prince Bardella peut solliciter sa belle famille, en tout cas, s'il le souhaite, parce que j'ai cru comprendre qu'il manquait pas d'oseille. Donc, il peut toujours faire un prêt privé. Je sais pas si c'est possible également, d'ailleurs. Est-ce que des particuliers peuvent?
Les particuliers peuvent, mais à hauteur de 4600 euros maximum par personne physique et par élection.
Ouais, c'est pas beaucoup.
Non.
C'est pas loin.
Comme tout le monde, je pense que l'ERN doit pouvoir être financé et faire sa campagne. Ce serait un scandale démocratique si ça n'était pas possible. Et effectivement, il est encore temps d'ailleurs pour cette assemblée de voter la possibilité pour l'État de faire un prêt aux partis politiques. Je vois pas où est le problème. L'État prête le parti en question fait plus de 5%. Il y a même pas de sujet de remboursement, si vous voulez, parce que il y a une compensation qui s'opère. Mm-hmm. S'il fait moins de 5%, on fait un Pécreston, un Sarcoton, etc., pour rembourser à l'État ce qui est dû. Et croyez-moi que l'État, quand il veut recouvrer une somme, il est beaucoup plus efficace que n'importe quelle banque, même la plus puissante. Hein. Donc, voilà, moi, je suis très favorable à cette idée de banque de la démocratie. Et sinon, dans cette attente, franchement, aucune banque n'entacherait sa réputation aujourd'hui en accordant un prêt au nom de la démocratie.
C'est sûr, prenons une banque, qu'elle ne se mette pas à montrer du doigt en disant, voyez, les 15 millions d'euros du Rassemblement National ont été prêtés par telle enseigne.
Je pense que les frais bancaires abusifs, par exemple, nuisent beaucoup plus aux réputations des banques. Quand quelqu'un s'aperçoit que la banque se sert joyeusement sur son compte au titre de frais de gestion bidon et autres commissions de je ne sais quoi, qu'un prêt au RN, honnêtement. Mais sinon, on n'a qu'à demander à la Banque Postale, qui est quand même plus ou moins une émanation publique aujourd'hui.
Ou à la Caisse des dépôts et consignations.
Ou à la Caisse des dépôts.
Pourquoi est-ce qu'une fois que les candidats ont leurs 500 signatures, la Caisse des dépôts dit, vous avez eu vos 500 signatures, voilà, on vous donne, alors peut-être pas l'intégralité, je ne sais pas, on vous donne une enveloppe de tant de millions, au regard, tu vois, du pourcentage fait aux élections précédentes, ou tout ce que tu représentes dans le paysage politique.
Ou la Banque de France, je ne sais pas si c'est possible.
Ou la Banque de France qui pourrait
n'importe quelle structure. Moi, ça me paraît, en tout cas, personne n'imagine.
On va aller plus loin avec la Banque de la démocratie et dire, toute personne qui a ses 500 signatures a X euros de prêt de la part de l'État, le même montant, et interdiction d'aller lever des fonds dehors. Parce que, aujourd'hui,
quand tu dis dehors, à l'extérieur, à l'étranger.
Non, dehors avec des fonds privés. En plus, le problème aujourd'hui, c'est que si vous êtes Emmanuel Macron et que vous avez un réseau de banquiers très large, si vous êtes un proche de Stérin ou Bolloré qui aujourd'hui mène une conquête politique et idéologique pour conquérir le pouvoir, vous avez des chèques ou Mathieu Pigasse, vous avez des chèques. Alors que si vous êtes un citoyen qui veut faire de la politique, vous n'en avez pas. Et donc aujourd'hui, ça pose quand même
des campagnes égalitaires.
Oui, mais tout ne se vaut pas. C'est pour ça que c'est les élus qui doivent signer. Il faut avoir ces 500 signatures pour partir.
Oui, mais
Je ne dis pas que tous ceux qui veulent y aller vont moins cher.
Tu ne peux pas prêter de la. Enfin, tu ne vas pas interdire.
Non, mais pour que tous les candidats soient à égalité, moi je trouve que ce n'est pas absurde.
Tu ne fais pas la même campagne quand tu es Nathalie Arthaud que quand tu es Bruno Retailleau.
C'est injuste.
Tu n'organises pas les mêmes meetings.
Excusez-moi.
Mais après les résultats aux élections, Nathalie Arthaud, c'est 1%. Alors, Bruno Retailleau, ce sera à plus de 10% sûrement. Quoi,
aujourd'hui, 15%. Avec une agence de com un peu intelligente, vous êtes capable, avec les outils d'intelligence artificielle, TikTok, etc., de faire monter un candidat en 3 semaines. J'invente pas, c'est ce qui s'est passé en 2024 en Roumanie. Il y a un candidat qui a émergé sur TikTok en 3 semaines, et figurez-vous qu'il a gagné l'élection. Heureusement, l'élection a été annulée par le conseil, l'équivalent du conseil constitutionnel roumain, parce que ça n'avait ni queue ni tête. Aujourd'hui, celui qui maîtrise le mieux les outils digitaux, maîtrise le mieux l'opinion, l'influence et peut gagner une présidentielle. C'est la raison pour laquelle, tous ces outils ayant un coût, je suis pour qu'on dise, par exemple, c'est 10 millions d'euros une campagne présidentielle, pas un euro de moins, pas un euro de plus. Tous ceux qui ont... parce qu'il y a 2 barrages à l'entrée. Il y a les 500 signatures et il y a le besoin de faire plus de 5%. Si vous faites moins de 5% et que vous vous retrouvez avec 10 millions de dettes sur le dos, à part si vous êtes le mari d'une princesse, vous êtes mal barré.
Mais alors quoi, tu veux rembourser même ceux qui font moins de 5?
Non. Justement, il y a 2 barrières à l'entrée. Il faut penser qu'on va pouvoir faire plus de 5%, parce que sinon on s'endette.
Et qu'on va
avoir les 500 signatures.
Oui, mais là, tu vas voir tous les petits candidats, les petits partis, par exemple, le nouveau parti anticapitaliste.
Dans l'idée de Flora, elle garde le coup de si par contre, si tu fais pas moins de 5%, tu te débrouilles. Et là, ça te refroidit un tout petit peu.
Oui, mais ils vont dire que c'est une démocratie à deux vitesses.
Et tu peux même aller. Ils diront avec leur parti.
Et tu peux même aller un chouïa plus loin, c'est-à-dire, comme sur les prêts travaux, c'est-à-dire déblocage des fonds sur facture, ce qui éviterait à des partis de s'embourber l'argent et que l'argent ne serve pas à la campagne.
Olivier veut réagir. Bonjour, Olivier.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Bienvenue. Alors, vous avez entendu, il y a pas mal de propositions qui ont été faites dans les GG, mais déjà, aucune banque ne veut prêter au RN. Qu'est-ce que vous en dites?
Je trouve que c'est absolument pas normal. C'est un parti qui représente 12 millions de personnes. Si on veut avoir une démocratie saine, il faut que tous les partis puissent s'exprimer. Surtout quand on voit les scores qu'ils font, ils ont l'assurance, on va dire, que les prêts soient remboursés. Vous parliez des 10%, effectivement. Enfin, l'élection sera bien plus haute. Donc forcément, les prêts seront remboursés par l'État. Je vois pas en quoi ça gêne, si vous préférez, de prêter de l'argent à ce parti politique.
Ouais, mais par exemple, je vais donner le nom d'une banque, LCL ou le Crédit Agricole, prête... X millions d'euros au Rassemblement National. Peut-être qu'il y a des clients qui vont dire, ah, mais moi, je suis pas d'accord avec ce prêt. Je veux pas que ma banque donne de l'argent au Rassemblement National. Et ils pourraient quitter aussi le Rassemblement National ou être montré du doigt sur les réseaux sociaux.
Pardon, ce qui fait quitter les banques aujourd'hui, ce qui fait quitter les banques, encore une fois, c'est leur mauvaise pratique. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes se tournent en masse vers les banques en ligne, Revolut, Conto, etc. Pourquoi ? Parce que les banques ont des pratiques abusives.
Allez-y,
Régis. Comme le dit Charles, si vous préférez, il y a des banques en ligne maintenant, et à ce moment-là, les 12 millions d'électeurs du Rassemblement National peuvent quitter les banques traditionnelles et partir sur des banques en ligne. Je pense que là aussi, ils ne seraient pas très satisfaits de ce qui se passerait. Mais moi, juste, il y a un petit point de détail qui me paraît important de dire quand même, c'est comment on l'a vu avec les dernières élections. Il y a le recours au prêt à des particuliers qui sont encadrés par la loi, et même ça, on leur a reproché en fait. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Donc, ils font quoi? Ils peuvent emprunter à des particuliers, ils peuvent pas emprunter aux banques. Et après, derrière, on va leur rappeler l'histoire des emprunts russes. Enfin, à un moment donné, il faut peut-être un petit peu rester cohérent. Dire effectivement c'est un parti politique qui représente des millions de personnes, on leur accorde des prêts et même l'État devrait obliger les banques à accorder des prêts. Au moins si l'État disait on oblige les banques à accorder, mais plus personne n'aurait venir. Les banques diraient nous on nous oblige, on peut pas faire autrement et les clients à ce moment-là pourraient pas se plaindre.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il faudrait une vraie banque de la démocratie ou bien la Banque de France ou la Caisse des dépôts. À partir du moment où il y a les 500 signatures que tous les candidats sont officiels et on leur dit il faut que vous ayez les 500 signatures 4 mois ou 5 mois avant l'élection. L'élection elle au mois de mai, au 1er janvier, enfin au 30 janvier, vous devez aller voir vos signatures. Et derrière, c'est la Caisse des dépôts qui prête.
Après, je pense que c'est un non-sujet. Enfin, moi, demain, j'apprends, ma banque, c'est le LCL. J'apprends que le LCL a prêté à LFI. C'est pour ça que je vais me saouler à partir.
Je suis pas d'accord. Je comprends. Les banques, vous savez, le métier d'un banquier, c'est d'évaluer les risques. Et il y a un vrai risque réputationnel à prêter au RN. Donc je comprends que je comprends qu'une banque se dise, moi, je n'ai pas envie de prêter au RN. Ça, il y a pas de problème. Le sujet, c'est que un parti doit une candidature à l'élection présidentielle qui a les 500 signatures doit pouvoir se financer. Et il manque d'équité dans le financement.
Merci à Olivier d'avoir été avec nous. Aucune banque ne prête au RN. C'était notre discussion avec un certain nombre de propositions qui ont été formées. Nous verrons si elles sont retenues par le pouvoir. Allez, dans un instant, Chine, Temu, AliExpress, 46% des produits testés sont dangereux. C'est ce que dit la Direction Générale de la Répression des Fraudes. 75% sont non conformes et pourtant, est-ce que vous allez continuer d'acheter 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules?
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
C'est avec vous, bien sûr, toujours. Tiens, j'ai un rendez-vous à vous donner. C'est demain Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Il sera le secrétaire général de Renaissance. Il sera l'invité des GG. Nous serons avec Jean-Loup Bonamy, Bruno Poncé et Sandrine Pégan. Gabriel Attal, il sera dans les grandes gueules demain, 1er mai. Lui qui veut complètement libéraliser le travail aussi le 1er mai. Il est potentiellement candidat à l'élection présidentielle. Il viendra s'expliquer, l'ancien chef du gouvernement, demain dans les GG, en homme libre, puisque c'est aussi le titre de son livre qui était sorti aux éditions de l'Observatoire. Pour terminer, il nous reste 10 minutes avec vous au 32-16. On va reparler un peu des plateformes de vente des produits chinois. Là. C'est un acronyme auquel vous vous êtes maintenant sûrement familiarisé, la DGCCRF. La Direction Générale des Contrôles et de la Répression des Fraudes. C'est le bras armé de contrôle de l'État. Ils ont pris 650 références qui sont vendues sur les plateformes Chine, Temu, AliExpress. 46% des produits sont testés dangereux. 75% sont non conformes. Et par exemple, les sèches-cheveux, 73% sont considérés comme dangereux. Non, pardon. 73% des produits pour la coiffure sont considérés comme dangereux avec des sèches-cheveux ou des lisseurs qui présentent des risques d'incendie. Alors, est-ce que vous allez arrêter d'acheter, oui ou non? Avant d'en discuter avec vous, les GG, on va aller au 32-16. C'est Émilie qui est là, qui est infirmière. Bonjour, Émilie.
Oui, bonjour à tous. Ben, déjà, merci pour cette prise d'antenne, parce que j'ai essayé plusieurs fois de vous joindre quand vous parliez des infirmières, etc., mais j'ai jamais réussi. Donc, merci de me prendre aujourd'hui pour un autre sujet.
Ben, je vous en prie. Il n'y avait pas de censure. Hein. Il y a toujours beaucoup de monde qui nous appelle au 32-16. Et c'est bien pour ça. Alors, Émilie, est-ce que vous êtes étonnée par ces tests? Est-ce que vous achetez? Vous allez y renoncer? Dites-moi.
Alors, en fait, j'achète pas forcément les cosmétiques sur les sites que vous venez de citer. En revanche, il y a un truc qui m'énerve particulièrement, c'est que si vous allez à Action, normal, si vous allez à Lidl, vous trouvez les mêmes cosmétiques et pourtant, ça passe à l'as, enfin, personne n'en parle, c'est la même chose.
Les mêmes produits, vous avez vérifié?
J'ai pas vérifié, mais quand vous avez un vernis à ongles qui coûte 50 centimes à Lidl, excusez-moi, mais enfin, j'ai peu de doute quand même que le truc, il soit pas nocif, quoi. Mais les lisseurs, c'est pareil. Vous allez, enfin, je sais pas si vous êtes déjà à la normale, mais vous allez à normale, vous avez des lisseurs, vous avez des sèche-cheveux, vous avez plein de produits comme ça. Enfin, c'est les mêmes, c'est la même chose.
Mais donc vous achetez sur les plateformes ou pas, Émilie?
Moi, je n'achète pas de cosmétiques sur les plateformes. J'ai de la chance de pouvoir me payer des cosmétiques un peu plus, enfin, un peu qui respectent un peu plus la nature et qui sont un peu meilleurs pour la santé.
D'accord.
Mais je sais qu'autour de moi, dans mon entourage, malheureusement, j'ai des personnes qui ne peuvent pas se le permettre et qui donc achètent régulièrement sur ces sites.
Voilà, ce que vous dites, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures. Quand on est dans une belle enseigne, enfin une enseigne connue qui a pignon sur rue, on est moins, peut-être moins regardant que quand c'est sur les plateformes chinoises. C'est ce que vous dites.
Non, pas du tout. Oui, pardon. Oui, c'est,
non,
tout
c'est
fait
ça. On est moins regardant sur la dangerosité des produits. D'accord avec ce que dit Émilie?
Oui, absolument, mais il faut que les personnes qui nous écoutent et nous regardent comprennent quelque chose. Quand vous achetez un produit sur Shein, sur Temu, sur AliExpress à 2 €, ce que vous achetez, c'est votre sécurité que vous mettez en danger, c'est votre santé que vous mettez en danger. Et donc, en fait, il y a un truc que les gens comprennent pas forcément, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés. C'est pas parce qu'un produit coûte 2 € qu'il coûte réellement 2 €. Il montre qu'il y a des fers à lisser, des fers à boucler qui sont très incendiaires, qui risquent d'incendier votre domicile. Si demain vous achetez un truc à 2 € mais que derrière votre maison prend feu, ben vous êtes perdant. Donc aujourd'hui, la question, c'est de faire comprendre à un maximum de personnes ce que sont les coûts cachés. Quand vous achetez des produits mais qui vous donnent un cancer, vous êtes perdant. Est-ce que vous préférez acheter un rouge à lèvres pas cher et avoir un cancer, ou acheter un rouge à lèvres plus cher et être en
mais
bonne
c'est une
santé
question de pouvoir d'achat
mais
aussi,
non, parce que la santé, c'est pas une question de pouvoir d'achat. La santé, c'est la première priorité des Français.
Donc,
et la
pas
santé
de rouge à lèvres, pas
et la sécurité
plutôt.
Mais non, parce que en fait, aujourd'hui, le sujet, c'est vaut mieux acheter. Il y a des marques françaises éthiques. Je vais en citer une, par exemple, Yves Rocher. Yves Rocher, c'est pas Dior Beauté. Yves Rocher, c'est des prix qui sont quand même accessibles. La question, c'est pas qu'on doit acheter un cosmétique 80 €. C'est que entre 15 € et 2 €, il y a la vie des gens qui en dépendent. Donc, c'est pas vrai que les Européens et les Français sont pas capables de faire des produits qui sont accessibles. La question aujourd'hui, c'est que on est en train de découvrir que la mondialisation nous met dans une concurrence qui est complètement déloyale et qui est surtout dangereuse pour nos consommateurs. Ouais, bah c'est ça le problème. Mmh. Et donc, tant qu'on comprendra pas, moi je les attends, les Bruno Retailleau et compagnie, qui nous parlent de sécurité toute la journée et qui sont même pas capables de protéger la sécurité des consommateurs. Quand on est attaché à la sécurité des Français, on fait attention. Et quand on est attaché au trou dans la sécu dont parle Charles régulièrement, on fait attention à ces sujets-là. Parce que ces sujets-là, ils mettent les gens en danger et ils causent beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle les coûts cachés, qui est de
toi, tu n'achètes
payer
pas sur
pour
ces
les cancers. Mais
donc,
jamais de la vie. Jamais, même pas en rêve.
Pas Chine, parce que j'achète pas de fringues, des choses comme ça. Par contre, moi, j'achète pas mal sur Temu parce que je bricole, je couds, je fais des bijoux, je fais des machins.
Mais
des
t'achètes
trucs.
Pas de produits cosmétiques
non,
ou électroménagers.
Le Roi Merlin, c'est une très belle marque française.
Non, mais alors, Le Roi Merlin, c'est gentil, mais ils me font pas des petites cordes pour fabriquer mes bijoux. Ils me font pas mes perles de rocaille. Ils me font pas mes pinces pour tenir mon tissu. Ils me font pas mes aiguilles.
Il y a des très belles quincailleries dans Paris.
Je sais, écoute, j'ai ouvert un magasin mondial tissu. Il a duré 6 mois. J'ai déposé le bilan. Donc, à un moment donné, je peux pas être aussi. Il faut que je sois en face de la réalité du truc. Maintenant, là où je te rejoins complètement, c'est qu'on a le paradoxe sous nos yeux. C'est-à-dire que on a nos sociétés cosmétiques françaises qui sont assommées de normes et de réglementations. Pourquoi pas? On a nos agriculteurs qui sont assommés de normes et de réglementations, mais on laisse entrer sur le pays produits qui bafouent tout.
Mais là, on les contrôle et on dit ils sont dangereux. On ne peut pas les interdire.
Oui, mais regarde, Émilie, elle a tout à fait raison. Je suis désolée, quand tu vas chez Action. Moi, par exemple, je vais acheter mes produits ménagers chez Action. Ben, quand je vais chez Action et que je vois le rayon maquillage, mais je te mets au défi, on en prend un, on retourne et on lit ce qu'il y a écrit dessus. Quand tu vois que ta palette de 12 crayons pour les yeux, elle est à 3 balles, il y a problème. Il y a gros problème parce que ça doit être testé sur les animaux. Tu dois avoir des trucs dégueux dedans. Donc, en fait, c'est ça. C'est que
ces magasins du succès parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le pouvoir d'achat
mais
qui guide.
Je ne te dis pas le contraire. Mais là où je rejoins Flora, c'est que dans ces cas-là, soit tu prends une décision drastique, c'est-à-dire que tu pars du principe que la santé publique prime pour certaines choses. Et je pense que le maquillage, on peut vivre sans maquillage et sans crème anti-rides. Donc, soit on arrête ce genre de choses, soit dans ces cas-là, tu libères aussi les entreprises françaises de toutes ces normes.
Charles ?
Non, moi, en plus, je pense qu'il y a tromperie pour les consommateurs parce que en Europe, et c'est une bonne chose, on s'est habitué quand même à acheter des produits qui ont été contrôlés, normés, testés, qui répondent effectivement à un certain nombre de normes. et on achète un peu en confiance en Europe quand même. Et donc si on va sur un site internet depuis la France, qu'on commande quelque chose et que ça nous est livré, normal, on se dit inconsciemment, ou enfin on pense que nos pouvoirs publics ont contrôlé cette ce produit. Or on s'aperçoit qu'en fait c'est une espèce de Far West. Donc moi je pense que le
c'est un libéral qui dit ça.
Et c'est un libéral qui dit ça. Mais oui, mais attends, on peut être comment dire, il faut un peu de nuance et de complexité. Ça sert à rien de faire l'Union européenne, de faire la France, etc., d'avoir le système qu'on a si c'est pour vendre de la camelote aux gens. On a envie quand même d'avoir une certaine sécurité. Donc moi, je trouve qu'il faudrait d'abord, évidemment, interdire la vente des produits qui sont jugés dangereux. Et si ces plateformes trichent avec le système en continuant à en vendre d'autres, on en interdit un, ils en sortent un autre qui ressemble exactement, etc. Moi, je serais pas contre interdire ces sites.
Bah, bien sûr, et j'aimerais simplement ajouter quelque chose. On est en train de creuser encore le fossé des inégalités, parce que imaginez un enfant qui grandit dans une maison avec des parents addicts à Chine et Temu, qui achètent tous les jouets de l'enfant, des jouets chinois. On voit que les jouets, ils sont très cancérogènes, qui achètent
dangereux,
et dangereux,
qui
achètent des produits inflammables, etc. VS un enfant qui grandit dans une famille qui a à cœur et qui est sensibilisé, par exemple des gens qui sont abonnés à 60 millions de consommateurs et qui lisent régulièrement de l'information sur les dangers réels de ces produits. Aujourd'hui, on va grandir dans des grandes inégalités, qui mangent bio, etc. Et ça va se répercuter sur la santé de ces deux enfants qui vont grandir. Et donc, déjà aujourd'hui, il y a une grosse inégalité liée à la santé en fonction du milieu social dans lequel vous évoluez, ça va être vraiment pire dans les années à venir.
Merci à Émilie d'avoir été avec nous. C'est Émilie qui aura conclu notre discussion des GG. On a une petite consultation, là justement, 46% des produits sont testés dangereux. Est-ce que vous allez y renoncer? Est-ce que vous allez boycotter Chine, Temu, AliExpress? Non, à quasiment 60%.
Les gens s'en foutent.
Oui, exactement. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est le porte-monnaie, le pouvoir d'achat
monde,
qui...
C'est pas ça, c'est que je pense qu'il y a plein de monde qui consomme sur ces plateformes, mais pas forcément du cosmétique ou du capillaire. Quoi.
Bah, les gens se mettent en danger.
On va passer la main à l'ami Estelle Denis. C'est Estelle Midi. Et Estelle s'est déplacée avec toute son équipe en direct de la Foire de Paris. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Et oui, nous sommes en direct de la Foire de Paris, Porte de Versailles. On va vous faire découvrir les dernières tendances, les dernières innovations qui vont révolutionner votre vie quotidienne. On vous aidera aussi également à faire de bonnes affaires. Et puis on aura plein de débats bien sûr dans l'émission. Faut-il taxer les super profits de Total? Moins cher, performante. Seriez-vous prêt à acheter une voiture électrique chinoise? Ça, ce sera à 12h30. Vous nous appelez bien sûr pour réagir au 32-16. Demain, c'est le 1er mai. Faudrait-il autoriser tous les commerces à ouvrir? On en parlera à 13h30. Et puis... on parlera Foire de Paris, bien sûr, à 14h. Décoration, bricolage, électroménager. Avez-vous encore les moyens de vous faire plaisir? Eh bien, dites-nous quel a été justement votre dernier achat plaisir. Est-ce que vous faites aujourd'hui des arbitrages? Appelez-nous, 3216, on vous attend. Estelle Midi, c'est dans un instant, à tout de suite.